nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Personne, je suis beau mandin d'une famille fortunée et estimable de Lyon. Paul se lève. Va vers lui, lui prend au bras.
Oui, pardonnez-moi, je me suis trompé. J'aimerais c'est que nous quittions bons amis, vous et votre sœur. Si vous voulez encore une soirée comme celle-là, je vous en offrirai.
Charles-André lui demande, sans rien en échange?
Je ne suis pas Méphisto de Faust, tout de même. Et vous avez comme ange gardien une si jolie sœur. Non, c'est simplement pour me faire pardonner.
Alors, ami, Charles-André lui dit, nous verrons. Il se fait tard.
Je vous accompagne.
Et il les mène jusqu'à la sortie de l'appartement. Dehors, il fait jour. Les gens sortent pour aller à leur occupation, qui sont en premier d'aller au café boire un verre. Apolline lui dit, qu'est-ce que j'ai sommeil? Je dors debout. Arrivé à l'hôtel, ils montent à leur chambre pour dormir. Ils se sont couchés dans le lit en gardant en partie leurs vêtements.
Ils se sont réveillés, la tête lourde, à 14 heures, le soleil inonde de sa lumière la pièce. Apolline lui dit
« Oh mon Dieu, quelle nuit! Tu as faim ?»«
Oui, un peu. » Elle se soulève et lui dit
« Quoi? Il y a dans le tiroir. Donc, il y a sur la table. Un bout de pain et du fromage. »
Et elle se lève. Se donne un coup de peigne à ses cheveux et défroisse sa robe. Lui se lève. Défroisse ses vêtements aussi. Elle sort du tiroir de la table une assiette où il y a un bout de fromage dessus, fromage de chèvre, et un morceau de pain. Elle prend un couteau, dépose sur la table. Elle découpe le pain en deux et le fromage aussi. Puis ils s'assoient à table tous les deux, l'un à côté de l'autre. Chacun mange sa part et lui dit « Notre premier repas de pauvre. Nous avons de l'argent pour combien de jours ?» Il hausse les épaules et lui dit « Je ne sais pas, une semaine peut-être. » Elle lui demande « Et après, que ferons-nous ?» Il faudra trouver du travail, et rapidement, ou rentrer à Lyon. Ah non alors, il n'en est pas du tout question. Nous rentrerons à Lyon que glorieux. Bon, il faut trouver quelque chose. Tes écrits, tu les montres? Non, je sais pas, j'y trouve pas assez bien. Il faut que j'écrive autre chose. Elle se lève. Et range l'assiette dans le tiroir. Elle lui dit « Eh bien, c'est le moment d'écrire. Si tu crois que c'est facile, en ce moment j'ai le cerveau vide. Rien, rien. » En faisant le lit, elle lui dit « S'assois, on tourne en rond, on tourne tellement en rond que je crois que le lecteur finir par s'endormir. Tu te rends compte que nous risquons de jouer les illusions perdues, alors que je suis venu à Paris, moi, pour jouer au moins Sarah Bernhardt. » Chalandré lui dit
« Tu n'en es pas encore là. »
Le soir, il revoit Paul attablé, qu'il est sans lit. Apolline dit à son frère, « Tu ferais peut-être bien de lui dire oui. » Chalandré lui répond, « C'est cela? Tu vends ton frère? » ?»« Non, mais Paris vaut bien une messe. » Il lui répond, « Ça a déjà été fait. Si tu veux les mots des autres, tu vas avoir des ennuis. » Elle hausse ses épaules et lui répond, « Qu'est-ce que j'y peux si mon frère n'a plus d'inspiration ?» Il n'a tout de même pas resté bloqué là, à la page 338. Je te trouve vulgaire depuis quelque temps, elle lui dit. J'ai décidé d'agrandir mon répertoire. Il lui dit, eh bien, va pas trop loin,
car tu risques de te perdre dans le service. » Elle soupire et hausse ses épaules.
Dans leur chambre, il lui dit « Arrêtons de nous chamailler, je vais essayer d'écrire. » Le lendemain matin, après le petit déjeuner, il se met à table pour écrire. Apolline, pour ne pas le gêner, va faire un tour. Lorsqu'elle revient à midi, il est allongé sur le lit à fumer une cigarette. Tout en enlevant son chapeau, elle lui demande « Alors, qu'as-tu fait ?»«
Rien, pas une ligne, j'ai absolument aucune idée. »
Elle va s'asseoir sur une chaise.
Elle lui dit « Qu'allons-nous faire ?»«
Je ne sais pas. »«
Et toi, le théâtre ? Que m'en veux-tu ? Je connais personne. »«
Essaye encore d'écrire. »«
Je ne veux pas entrer en Lyon sans avoir rien fait. »
Elle va se mettre à genoux au pied du lit, près de son visage.
J'ai peur. Je serais très malheureuse si nous étions obligés que tu fasses la connaissance de cette femme.
Je vais écrire. Tu verras.
Malheureusement, le soir, il n'a rien fait. Et il retourne au restaurant. Là, au restaurant, Paul les salue, se lève pour aller les saluer.
Tout va comme vous voulez.
Ils ne répondent pas. Paul continue.
Si vous voulez, on peut faire quelques pipes chez moi.
Ils ne répondent pas. Paul leur dit.
Ça peut aider, l'inspiration à venir.
Charles-André soupire. Et lui dit.
De toute façon, nous n'avons pas d'argent.
Sa sœur le regarde. Paul dit.
Qui vous parle d'argent? C'est un cadeau. Terminez votre repas et venez avec moi.
Paul retourne à sa place. Apolline dit furieuse.
N'aurait jamais dû accepter. Ces pipes vont nous coûter cher. Je cherche à t'avoir à sa merci.
Charles-André lui dit.
Il ne m'aura jamais. Sa drogue va me donner de l'inspiration.
Elle hausse les épaules et lui dit.
Ça te donnera surtout mal à la tête. Un dégoût de tout.
Ils ont fini de manger. Charles-André se lève et lui dit.
Si tu veux, tu peux rentrer.
Moi, je vais avec lui. Elle se lève et lui dit.
Non, je vais avec toi. Nous sommes dans la même galère.
Je subirai ton destin. Ils vont vers Paul. Paul dit.
La petite va avec nous.
Charles-André lui dit.
Oui, elle veut rester avec moi.
Cela ne t'ennuie pas.
Non, bien au contraire. Alors allons-y.
Et ils sortent du restaurant.
Ils ont fumé tous les trois. Apolline a accompagné son frère. La drogue leur a fait plus d'effet que la première fois. C'est prodigieux. Charles-André a l'impression que son esprit est libre, qu'il n'a plus aucune limite. Il se sent capable de créer des choses qui dépassent l'intelligence. Il voit, il entend des formes, des choses, des bruits comme jamais on en a vu, et ceci dans des couleurs extraordinaires. C'est flamboyant. C'est un feu d'artifice. Et les sons qui semblent venir de la Voie lactée, d'un paradis. Et ses femmes, ses formes, et le plaisir qu'a son corps. Jamais il n'y a autant joui d'une façon si profonde. Tout d'un coup, il se réveille dans un monde gris, sans relief, fade, triste, sans jouissance. Le contraste est si grand qu'il a envie de mourir. Sa sœur est là, près de lui, qui le regarde, elle aussi, le visage bouffi, d'une personne qui vient de loin. Paul est en face d'eux et leur dit « Il est tard. Il est temps que vous repartiez. » Durant toute la journée, ils sont incapables de dire ou de faire quoi que ce soit. La réalité leur fait mal. Les jours passent. Malgré leur dégoût, ils ne peuvent refuser l'offre de passer la soirée avec Paul. Et c'est toujours la même griserie. Toujours la même griserie qui leur vient. Puis, le matin, c'est aussi fade. Ils passent leur journée dans leur chambre à ruminer du noir. Leur plume leur a coupé la faim et se contentent de grignoter de petits biscuits achetés pour quelques sous à la boulangerie et à boire un peu de vin rouge. Ils parlent peu. Les yeux gobuneux, maigrissent, ont des gestes lents. Un rien les met en grogne et pleure. Il arrive à Charles-André que l'effet de l'opium le fait bander et qu'il se masturbe, mais autrement il n'en aurait aucun désir. Donc leur corps n'a qu'une fonction, c'est de demander l'opium. Leur économie file vite, mais ne s'en rend pas compte. Et d'ailleurs, ils seraient incapables de réagir. Pour eux, Paul est devenu celui qui leur donne ce qu'ils ont besoin. Un soir qu'ils sont chez Paul, Paul leur dit « Cela suffit, vous avez suffisamment été dégradé. Après, ce serait trop dur pour vous refaire une santé. Je ne vous donne donc plus d'opium. Il faut payer. » Le frère et la sœur sont effondrés. Charles-André demande « Combien ? » ?»«
Très cher.
Je payerai plus tard. J'ai pas confiance. » Le frère et la sœur sont tous deux tremblants, furieux, se penchent d'arrêt en avant, sans arrêt. Le frère dit,
il nous en faut absolument.
Paul ne répond pas. Il reste un long moment comme ça. Puis Charles André se penche menaçant avec son poing.
Il le prend au collet, le secoue et lui crie,
tu vas nous en donner, tu vas nous en donner. Où on se sert?
Tu peux chercher, il n'y en a pas.
Charles André lâche Paul et se lève. Et tourne en regardant autour de lui. Sa sœur le regarde, impassible.
Puis, il court vers la commode, ouvre les tiroirs. Mais il n'y a dedans que des vêtements. Il les jette à terre. Puis, sort de la pièce. Il revient.
Et crie, où tu l'as mise?
J'en ai pas.
Va en chercher.
Je ne peux pas, je n'ai pas d'argent.
Mentor, tu m'as dit que tu étais très riche.
Pas pour cela. Paye et tu auras.
Combien?
Très cher.
Dis.
Mathilde de Saint-Auban, je veux 10% de sa fortune et tu auras toute la drogue que tu voudras.
Apolline dit, et moi?
Toi aussi, puisque tu as aidé ton frère.
Elle lui dit, je ne veux pas que cette femme ait mon frère.
Paul lui répond, on ne peut pas faire autrement. Mais il fera semblant si tu le désires. Alors, vous êtes d'accord?
Le frère s'approche d'eux pour s'asseoir à côté de sa sœur.
Paul leur dit, bien, nous allons vous refaire tout d'abord une santé. Sur les bords de Seine, je connais un aubergiste de mes amis qui vous hébergera à mes frais. Il a reçu l'ordre de bien vous faire manger. Vous prendrez des bains tous les jours, promenade et une pipe par jour, pas plus. Surtout mangez bien et ne maigrissez pas. Il faut que dans 2 mois, vous soyez frais et dispo lorsque je viendrai vous chercher. Cela vous convient-il?
Oui.
Bien. Demain matin, vous venez en bas de chez moi avec vos bagages. Nous partons à 9h.
Il sort de sa poche une liasse de billets, les tend à Charles André.
C'est pour payer l'hôtel. Mais attention, c'est que pour payer l'hôtel. Ne cherchez pas à m'avoir. Sinon, j'en referai à votre père. Je connais un homme une personne qui est en affaire avec lui et qu'il connaît très bien.
Charles André met les billets dans sa poche et lui dit, ne vous en faites pas.
Paul sourit, lui dit, très bien. Maintenant, vous allez me signer un papier disant que vous devez me remettre après votre mariage avec madame Mathilde de Saint-Auban la somme de, qui représente 10% de sa fortune. Je l'ai appris par un collaborateur de son défunt mari qui a été renvoyé. Bien entendu, je n'ai pas mis sur le papier 10% de la fortune, mais la somme. Si l'on vous demande le pourquoi de cette dette, vous direz dette de jeu. Vous voulez signer?
Oui. Paul sort un portefeuille de sa veste et un crayon. Il ouvre le portefeuille et en prend une feuille qu'il déplie et met sur la table pendant... Tendant le crayon.
Signé.
Charles André signe. Pendant que Paul range le papier dans son portefeuille, Charles André lui demande. Et si je ne peux pas vous donner cette somme?
Paul lui répond. C'est une dette. De toute façon, il faudra donner la somme.
Mais comment?
Ne vous en faites pas. Lorsque nous en serons là, je vous conseillerai. Je serai toujours près de vous. Et puis, votre sœur sera là. Elle aussi pour vous aider.
Tout ceci a excité le frère et la sœur, ce qui les a fait oublier un instant l'opium.
Paul leur dit, je crois que vous avez mérité une pipe.
Charles André lui dit, je croyais que vous n'en aviez plus.
Oui, mais je peux aller en chercher. Mais à partir de maintenant, vous n'aurez plus le droit qu'à une petite dose. Je ne veux pas que vous ressembliez à des fantômes. Vous devez séduire et pas faire peur et rester lucide. Attendez-moi, je reviens avec ce qu'il nous faut.
Et il sort de la pièce.
Le lendemain matin, comme leur a dit Paul, le frère et la sœur se sont levés, ont fait une bonne toilette, préparé leurs bagages, mis du linge propre, puis ont pris un bon petit déjeuner avec du café noir, réglé la chambre et sont partis à pied vers chez Paul. Ils l'ont trouvé en bas de chez lui, devant un fiacre. Il les a fait rentrer et sont partis. Le trajet se presse presque sans parole. Tout a été dit. Le carrosse va devant une auberge, sous la berge de la Seine, une petite maison grise de 2 étages. Le bas fait restaurant-café. C'est rustique. Derrière l'auberge, il y a un bout de terrain qui donne sur la Seine. Ce terrain, le dimanche, sert de guinguette. Ils sortent de carrosse et entrent dans l'auberge. C'est sombre. Il y a des tables en bois recouvertes de nappes à carreaux blancs et rouges. Un petit homme gros, à moustache noire, casquette, cigarette au bec, des joues rouges, l'air jovial. Par-dessus ses vêtements, un tablier marine.
Bonjour, monsieur Paul. Bonjour, Auguste. Je t'amène les 2 pensionnaires, ce que je t'ai dit. Il faudra bien me les requinquer. Ne vous en faites pas. J'ai fait l'élevage des oies.
Il regarde le frère et la sœur.
Bonjour. « Je suis Auguste. Soyez le bienvenu dans ma modeste auberge, la belle marinière. Nous allons bien nous occuper de vous. Allez, vous allez voir. »
Paul leur dit « Bon, je vous laisse. Reposez-vous. » Tout d'un coup, Charles-André a une pensée. En un éclair, il se voit sans pipe. « Mais comment ?»
Paul comprend, lui dit, ne t'en fais pas, tu y arriveras très bien, avec une pipe par semaine, on va te requinquer. Sa femme, qui cuisine, est du Périgord.
Et il les quitte.
Je vais vous montrer vos chambres.
Ils le suivent. Monte un escalier de bois. Au premier étage, il va ouvrir une porte.
Entrez.
Voilà votre chambre.
petites jambes rustiques, mais propres. Auguste leur dit,
c'est pas le luxe, mais vous saurez bien. Et de la fenêtre, on voit la rivière.
Il y a un gros dragon rouge sur le lit, à une place, une lampe à huile sur la table de chevet, une table de toilette, une armoire.
C'est très bien, je vous remercie.
La chambre de votre sœur, c'est elle qui est à côté de la vôtre.
C'est la même, sauf que l'hydrodon est bleu. Puis Auguste leur dit,
« Bien, je vous laisse. Vous reposez et rangez vos affaires. À une heure, ma femme viendra vous apporter votre repas.
Cela vous va ?»«
Oui, monsieur, merci. »
Vous mangerez dans vos chambres respectives ?
Jean-André regarde Pauline qui dit « Si nous mangeons dehors ?»
Pas de problème.
La première semaine se passe calmement. Ils occupent leur journée à bien manger. La femme de l'aubergiste est une brave cuisinière. C'est une femme petite grosse dans les 50 ans, l'air jovial, les cheveux à chignon grisonnant. Après manger, ils vont faire un tour le long de la Seine. La drogue ne leur manque pas trop. Puis, ils sont bien surveillés. Et l'abondance de nourriture les appartient un peu. À part eux, il n'y a aucun pensionnaire. La semaine des pêcheurs viennent boire et manger un morceau.
Laisse passer s'il vous plaît, merci. René, René !
Et voilà la première. Et pour l'enfant.
Pour le petit marin, d'accord, voilà. Bien, bon.
Le dimanche et le samedi, les Parisiens viennent passer un moment pour boire et manger et danser. Un petit cortège ou simplement un acte de barbarie suffit. La première semaine, le frère et la sœur se ressentaient gênés d'être envahis par des inconnus. Alors, et tout ce bruit.
Madame, qu'est-ce que vous allez prendre ?
Ils vous laissent s'isoler. Ou fuir. Mais juste au moment où ils allaient quitter l'auberge, un jeune homme dans les 18 ans, bien mis, grand, blond, tout simplement, il lui prend la main et lui dit « Venez, allons danser. » Surprise, elle se laisse guider par lui. Son frère Boudor les suit. Au lieu de la musique, des rires. Ce qui l'agaçait lui plaît. Charles André est poussé par une jeune fille qui le mène et il danse lui aussi.
René, occupe-toi de là.
Ils ont passé une journée agréable à danser, rire, manger. Manger de la friture. Boire du vin blanc. Enfin, tout ce que l'on fait dans une guinguette au bord de l'eau, faisant image d'épinal.
Ah ben c'est ce que t'appelles arriver à l'heure, toi.
Oh ben ça alors, 3 mois de mariage et 2 marmots.
Bonjour,
Marie.
Bonjour,
Marie. Félicitations.
Ah, ils sont la cause innocente de notre retard.
Thank you.
C'était leur deuxième semaine, leur santé va mieux. Tout en marchant le long de la rivière, Apolline demande « Qu'allons-nous devenir ?» Il lui répond « Nous ferons ce qu'il nous a demandé. » Elle lui dit « Je ne veux pas être le complice de Paul. Peut-être ferions-nous mieux de partir ?» Il lui dit « Tu oublies le papier que j'ai signé. Et puis, je connais quelqu'un qui a en affaire avec mon avec père. Non, pour le moment, il vaut mieux que nous restions bien sagement. Faire ce qu'il nous dit. » Elle lui dit « Je déteste Paris. Nous n'avons eu que des malheurs. Et c'est sans triste. » Il lui dit « Nous n'avons connu que le mauvais versant de cette ville. Bientôt, nous connaîtrons l'autre. » L'abondance de nourriture, une nouvelle vie dans un endroit agréable leur fait presque oublier le paradis artificiel. Mais Paul tient à ce qu'il ne l'oublie pas tout à fait. Une fois par semaine, il vient et leur apporte chacun une pipe. Avant de les quitter, après avoir fumé dans la chambre de Charles-André, Paul demande « Est-ce que vous écrivez ?»« Non, t'achètes d'écrire quelque chose. J'y ferai éditer. Ce sera une bonne carte de visite. Écrivez quelque chose de gentil, de très féminin. Je vais essayer. » Le lendemain matin, après avoir pris le petit déjeuner sur la terrasse, il dit à sa sœur « Je vais tâcher d'écrire quelque chose de féminin, quelque chose de subtil et de fin, comme il dit. » Il quitte sa sœur pour aller dans sa chambre écrire. Comme cela faisait longtemps qu'il n'avait pas cherché à écrire, son cerveau s'est détendu et reposé. Il cherche et se demande quelle est la chose la plus féminine qui soit pour pouvoir trouver un sujet d'histoire qui fait la différence dans la vie à part l'acte sexuel entre la femme et l'homme. Qu'est-ce qui est le plus féminin dans sa vie ? L'enfantement, être capable d'enfanter, c'est durant cette période qui la rend la plus féminine possible. Lorsqu'elle sait qu'elle est prête à enfanter, c'est là qu'elle se sent vraiment femme. Et lorsqu'elle s'aperçoit qu'elle ne le peut plus, elle doit se sentir moins féminine, moins femme. Et si une femme qui apprend qu'elle n'est plus féconde à cause de l'âge, en même temps tombe amoureuse d'un homme,
Elle doit se sentir sûrement plus gênée, car elle doit se dire que la féminité qu'elle aimerait donner à l'être aimé n'est pas entière. Donc, ce qui est le plus féminin à une femme, c'est ce qui fait la preuve qu'elle est une femme à part entière, en pouvant être féconde. Et cette preuve lui est apportée à d'actes fixes régulières par ses menstruations. Et le jour où cela cesse, c'est la fin de sa pleine féminité. Bon, alors voyons, une femme peut se sentir moins femme à la fin de ses menstruations et avoir honte de désirer un homme encore à son âge. Voilà ce qui pourrait donner un bon sujet d'histoire. Tu prends un papier, réfléchis et écris. Une femme s'aperçoit qu'elle n'a plus ses menstruations. C'est une femme vive qui vit avec sa fille, qui est femme, mais qui vit avec sa mère malgré ses 25 ans. La mère apprend la fin de sa féminité avec tristesse. C'est seulement dû à ce qu'elle ne l'a pas beaucoup utilisée, car vivant très tôt avec sa fille, elle est restée sérieuse, sans aventure, et n'a pas cherché à se remarier, peut-être à cause de sa fille. Et maintenant, elle s'aperçoit que l'âge est passé. L'âge de la femme, dans toute sa splendeur, est qu'elle entre dans un âge automnal, où son corps va se flétrir, et est déjà mort pour la procréation qui est pour elle le surhomme de la sexualité. Une partie de sa vie lui est définitivement fermée. Toutes ces années sont passées si vite qu'elle n'a pas vu le temps passer. Maintenant il est trop tard, car elle le pense qu'il est trop tard. Elle regrette de ne pas avoir pu se servir pleinement de son corps comme sa jeunesse lui permettait. Et c'est fini. On ne peut plus retourner en arrière. Elle se dit qu'elle est trop vieille. Pourtant, malgré elle, elle se sent tout aussi fougueuse que dans sa jeunesse. Quelque temps après avoir constaté cela, sa fille fait la connaissance d'un bel officier. Elle le présente à sa mère. Elle le trouve bien, intelligent, et lui donne la permission de revenir voir sa fille. Elle l'invite aussi à dîner, etc. Le temps passe, et petit à petit, elle s'aperçoit qu'elle aime l'ami de sa fille. Elle en a honte. Il est beaucoup trop jeune. Qu'elle pourrait être son fils. Il a 22 ans, elle en a 45. Et puis, elle se trouve laide. Et ne pourra jamais lui offrir ce qu'il désire, une femme, puisqu'elle n'en est plus une. Elle souffre beaucoup et de trop penser à lui. Mais malgré elle, des gestes, des paroles, le jeune homme s'aperçoit à cause de ses gestes et paroles. Et il est conquis. Il essaie de faire un pas en avant, elle ne répond pas. Elle a honte, se prend pour une folle. Le temps passe. Un jour, elle s'aperçoit avec joie que ses règles reviennent. Elle en est toute heureuse. Enfin, elle est redevenue femme. Croit à un miracle de l'amour. Puisqu'elle est entièrement femme, elle accepte les avances du jeune homme. Et le soir, où elle doit le rejoindre, elle se trouve dans un bain de sang.
impossible d'arrêter. Le médecin vient l'examiner. Elle a une grosseur maligne, trop tard, trop grosse. Et elle meurt. Et voilà le résumé de l'histoire que je vais écrire. Il est écrit durant 2 jours entiers. Une fois qu'il a eu fini d'écrire, cela lui a apporté une telle joie qu'il en a oublié l'opium. Le soir, il lit la nouvelle à sa sœur dans sa chambre. Qu'est-ce que tu en penses? C'est très beau, très beau. Tu as réussi à rendre cette chose très poétique. Donc, cette nouvelle, je peux la présenter. Elle est bien. Au restaurant, il donne la nouvelle à Paul pour qu'il la lise chez lui. Le lendemain au restaurant, Paul lui dit « Elle est très bien ta nouvelle. Je vais la faire éditer. Elle va énormément plaire à ces dames. Elles vont demander quel est cet auteur. Ça va t'ouvrir toutes les portes du Faubourg Saint-Germain. Vous continuez à écrire, mon petit. » Le frère et la sœur sont fous de joie et Charles-André décide de continuer à écrire. Deux semaines plus tard,
nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Les délires de la création. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.